choses plus difficiles? Un peu des deux. C'est ça, hein? Et oui, c'est la vie dans laquelle nous nous sommes engagés, une course. Mais il faut arriver en vainqueur. Je tiendrai. Amen. C'est ce que nous promet tout simplement ce texte. Je tiendrai par la force de Christ. Parce que quand il est avec nous, qui peut être contre nous? Amen. J'aimerais ouvrir avec vous donc l'Écriture, la parole de Dieu, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce simple verset, un texte bien connu des lecteurs de l'Écriture, de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vais le relire avec vous en regardant là, tiens. Pas l'habitude, je regarde toujours là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce personnage dont on fait référence ce soir avec ce texte, c'est un homme qui un jour a vécu une expérience. Il croyait servir Dieu et en fait, il vivait à l'opposé de la volonté de Dieu. Et il a fallu qu'il y ait, à un moment donné, une rencontre avec celui qu'il pourchassait, dont il voulait faire taire le nom, Jésus le Christ. Amen. Donc il dit, voilà ce que Jésus dit, si quelqu'un est en moi, il est une nouvelle créature. La presse nous fait remarquer qu'aujourd'hui, on aime bien regarder, tout simplement en arrière, se rappeler du bon vieux temps. On dit même aujourd'hui le temps d'avant. Vous vous rendez compte avec l'épisode Covid que nous vivons? Eh oui. Alors, le bon vieux temps. On a des personnes comme cela qui sont nostalgiques, on va le voir ensemble. Un revoir de vieux films, des vieux shows également. Ils appellent cela de la nostalgie. Et bien sûr, la nostalgie, c'est un mot qui signifie réellement une souffrance. Comme par exemple celle du mal du pays. Vous l'avez entendu. Peut-être vous-même vous êtes exprimé, si vous avez été obligé de vous expatrier un petit peu pour ne serait-ce que le travail ou les épouses pour rejoindre leur mari ou le contraire. En tout cas, les gens ne se sentent plus chez eux, quelque part dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Et bien sûr, ils pensent que les jours d'antan étaient meilleurs et plus heureux. Je laisse libre cours à vos pensées, à ce que vous pouvez analyser et réfléchir dessus. En tout cas, tout le monde parle du bon vieux temps et languit quelque part après le passé. Seulement, la nostalgie, quelque part, c'est une tromperie pour nos pensées. Et je vais m'exprimer là-dessus. Nous oublions ce qui était désagréable et nous ne voulons penser qu'au bon moment, au moment heureux, où tout nous réussissait. Tout ce qui a été une faillite, on l'enfouit, on ne veut plus y penser. Alors, notre psychisme laisse notre passé baigner, je dirais, dans une lumière d'or. Et quelque part, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Le Seigneur lui-même nous montre l'exemple lorsqu'il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il rajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Le péché, c'est mauvais, l'iniquité, n'en parlons pas, c'est la même chose. Donc, quelque part, Dieu veut se souvenir que du meilleur. Il veut que nous nous souvenions que du meilleur. Alors, ceci se passe bien sûr lorsque nous nous repentons de nos péchés et lorsque nous croyons. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On a beau entendre de bonnes paroles, d'entendre également qu'il y a de l'espérance, de l'espoir, comme vous voulez. Nous restons dans notre bourbier. Nous nous retrouvons comme cela, liés quelque part par des choses qui nous accusent. J'ai noté liés à l'enfer, bien sûr, accusés par nos fautes, par nos péchés, par nos iniquités. Eh oui. Alors vous trouvez des choses similaires dans la première partie de la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et si vous faites un petit peu attention en lisant la Bible, Eh bien, vous vous rendez compte que les psaumes, les prophètes, regardent tous en arrière et quelque part, ils se rappellent des grands jours. Quand justement, Israël était une nation puissante. Et même plus loin encore, lorsque par exemple, Moïse va conduire Israël hors d'Égypte. C'était glorieux. Alors, on disait, voilà de l'or, partez, laissez-nous. C'est pas extraordinaire? Voilà du bétail, prenez-le, mais surtout partez, ne restez pas avec nous. Oui, mais ça, c'est l'action de la puissance de Dieu. Eh oui. Alors, le psalmiste va dire ceci dans le psaume 44, verset 2. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. De ta main. La main de Dieu. Il vaut mieux qu'elle soit sur nous, c'est-à-dire avec nous, que contre nous. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, si sa main est pour nous, qu'est-ce qui peut nous arriver de regrettable? Pas grand-chose. Sinon, des pertes qui seront un gain pour nous. Parce que perdre des désirs mauvais, alléluia, ça nous libère. Et donc, on est beaucoup mieux ensuite. Jérémie, peut-être le plus grand prophète hébreu, vit la gloire de la destruction plutôt de Jérusalem par Babylone, parce qu'ils étaient là. Et dans Lamentations, chapitre 5, verset 15, il va dire « La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. » Vous voyez, il reconnaît. Et je crois qu'il est bon de reconnaître quelque part pour être délivré de ce qui nous rend esclaves malheureux, ou qui nous amène dans la souffrance, ou qui amène les autres à souffrir avec nous, ou par notre faute. Donc il dit, voilà, malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Dieu n'est jamais dépassé par les événements qui peuvent subvenir. Il est Dieu. Donc il dit, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Pourquoi? La question est posée. Est-ce que vous croyez réellement que Dieu a abandonné la terre à son sort? Vous croyez que Dieu vous a abandonné à votre sort pour vous laisser comme cela? Sans vous donner, comme les hommes disent, une seconde chance, voire une troisième, une quatrième, une cinquième. La Bible nous parle d'un Dieu d'amour. Son amour, il l'a prouvé en donnant Jésus à la croix. On l'a chanté. Alors oui, ce Dieu d'amour n'a qu'un désir, c'est que nous puissions, quelque part, en retrouvant la communion avec lui, nous en sortir, sortir du marasme. Amen. Alors, il faut rester clair quand même. Tous ces prophètes hébreux ont entrevu également un avenir qui était plus brillant. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce soir. Faire de vous une nouvelle création pour donner une vie nouvelle. Le destin de la nation allait changer. C'est ce qu'ils voyaient. Ils allaient vivre des choses qui allaient les rétablir. Alors, ils utilisent un langage comme ceci. Je prends Amos chapitre 9, verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rétablirai comme elle était autrefois. » Amen. Il y a d'espérance avec Dieu, vous ne croyez pas? Je ne parle pas de la religion, je parle de Dieu. Je parle de Jésus. Eux, ils espéraient. Ils espéraient que leur nation retrouverait la grandeur que David et Salomon lui avaient donnée, bien sûr, et que le passé serait rétabli, que les choses redeviendraient comme avant. Dans ses lamentations, Jérémie espère que les choses du passé retrouveront leur ordre et redeviendront comme jadis. Lamentations 5, versets 21 et 22, cette fois-ci, il dit « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel ». Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ? Vous voyez ? Il pose la question, Jérémie. Il connaissait le Seigneur, il avait une relation avec lui, bien sûr. En tout cas, il est bon de garder en mémoire que Jérémie, il tient ses propos environ 600 ans avant la venue de Jésus, avant que Jésus également ne tienne des propos semblables. Jésus est venu et il a révolutionné toutes choses. Il ne parla jamais de rétablir les choses dans leur état initial. Eh oui. Il dira même à un disciple qui lui disait « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus lui répond « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque, ses disciples le suivirent et le disciple avec. Donc il n'y avait aucune nostalgie en Jésus. Il était le Messie dont Israël parlait depuis des siècles, mais lorsqu'il vint, il était totalement différent. Eux, ils attendaient, vous savez, un chef de guerre qui allait soulever les foules et les libérer du joug romain. Et puis, il n'a pas agi de la même manière. En tout cas, il dépassait tout ce qu'ils avaient entendu et compris, eh bien, des prophètes ou des prophéties messianiques. Dans le Nouveau Testament, on voit une chose, c'est qu'il n'y a pas une seule trace de nostalgie. Le Nouveau Testament ressemble à un poème chanté. Alléluia. Et il annonce la joie, la gloire, la victoire, l'accomplissement, la réalisation des annonces faites par Dieu. Amen. En fait, nouveau, eh bien, c'est le mot clé du Nouveau Testament. Pourquoi ne pas oublier le passé, pour aller de l'avant et goûter justement aux promesses qui nous attendent. Dieu nous a fait des promesses magnifiques. Il nous a préparé également des cadeaux. Quoi qu'il y ait des gâteaux aussi. Hein. Mais il nous a préparé des bonnes choses. Il aimerait que nous ayons soif, faim de les vivre, de les recevoir. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Personne n'aimait les cadeaux. Levez la main si vous aimez les cadeaux. Les gâteaux aussi aimaient les cadeaux. Les deux, eh oui. On prend plaisir quand on pense à nous et qu'on arrive et qu'on nous donne un paquet, vous savez, bien impacté. On a plaisir à ouvrir. Moi, je vois ma petite-fille chaque fois. Même mes petits-fils, ils prennent plaisir. Ils sont heureux, hein. Eh oui. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est les plus heureux de la terre à ce moment-là. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous a fait un grand cadeau, un immense cadeau. La possibilité de pouvoir vivre à nouveau, de vivre en nouveauté de vie. Apocalypse 21, verset 5, dit que celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris. » Car ses paroles sont certaines et véritables. Alors Jésus n'est pas seulement venu pour restaurer, mais je dirais pour faire toute chose nouvelle. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et plaise à Dieu que vous aussi vous puissiez, si ce n'est pas encore fait, devenir une nouvelle créature. Que Dieu puisse vous recréer. Vous allez vous surprendre tout simplement à dire, mais ça, je ne croyais pas que j'étais capable de me séparer de ceci, de couper avec ça, ou de rechercher quelque chose à laquelle je n'avais jamais, jamais imaginé que je pourrais rechercher. C'est ça, mes amis, la vie. On est capable de dire non à ce qui est sale, infâme, et puis de rechercher quelque chose de plus beau, qui nous coûte beaucoup plus cher, parce qu'après, on est tellement bien là. Il y en est tellement bien, là, dans son cœur. On est en paix avec soi-même. On ne se traite plus mal. Parce que, excusez-moi, mais il nous arrive de nous traiter très mal. Quand on a succombé. Quand on a fait ce qui n'est pas bon. Ce qui nous détruit. On le sait. Mais c'est plus fort que nous. Il faut qu'on le fasse. On succombe à la tentation. Ça, parce qu'on est seul. Mais quand Jésus est dans la partie, quand on est invité à venir, quand on lui a dit « Viens, fais toute chose nouvelle en moi. » Mes amis, il le fait. Alléluia. Et c'est formidable. Aucun artiste, véritable artiste, ne va perdre son temps à restaurer de vieux tableaux, à les retoucher par-ci, par-là. Qu'est-ce qui fait le véritable artiste? Mais il fait tout simplement une œuvre nouvelle. Amen. Qui va être encore plus belle que l'ancienne ou que celle qui était avant. Voyez? Et c'est ce que veut faire le Seigneur. Et il veut vous rendre encore plus beau que ce que vous étiez ou que ce que vous êtes jusqu'à présent. Il faut simplement tourner les regards vers lui, reconnaître qui il est et qui nous sommes. Moi, je sais, je suis un pécheur et j'ai été racheté par grâce. C'est-à-dire que Dieu m'a fait grâce. C'est-à-dire que Dieu est venu jusqu'à moi, il m'a dit, voilà, je veux faire de toi un homme nouveau. Le veux-tu? Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, j'ai dit, pitié de moi, je ne pourrai jamais changer. Je connaissais mon caractère, je me connaissais, vous vous connaissez aussi. Et on ne joue pas, c'est la réalité. On sait ce qu'on vaut. Et on sait, quelquefois, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire dans le pire. Alors c'est important de réfléchir un petit peu. Prophète Ésaïe, qui dira déjà en son temps de la part de Dieu, Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Gloire à Dieu. Parce que là où nous sommes incapables, c'est lui qui le fait. « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ou moi, je n'ai tout essayé, je n'ai plus de ressources, je ne peux plus rien. Lui, il peut le faire. Et voilà ce qu'il fait depuis des siècles parmi toutes les nations de la terre. Amen. Écoutez encore une fois ce que la Bible proclame. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Hein, vous voyez? Tout ce passif que nous avons. Si nous l'avons confessé à la croix, si nous avons demandé pardon à Jésus et à Dieu pour ces choses mauvaises, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a parlé de vin nouveau, de nouvelles langues, d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle Jérusalem, d'une terre et de des cieux nouveaux. Amen. Vous croyez qu'il y avait de la nostalgie? Eh oui. La foi chrétienne, c'est une aventure. Quelque part où rien ne se répète. Toujours pleine de fraîcheur, de découverte. Qui ne s'arrête pas. Au fur et à mesure qu'on avance, on découvre. On dit, c'est formidable. Eh oui. Le Saint-Esprit est un esprit qui renouvelle. Un croyant expérimentera, comme l'apôtre Paul l'a un jour dit, que même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Eh oui. Même l'Ancien Testament languissait après de telles choses. Ézéchiel, donc un prophète, avait annoncé que Dieu ferait une alliance nouvelle avec son peuple. Qu'il donnerait également un esprit et un cœur nouveau. Mais mes amis, il le fait. Depuis des siècles, il le fait. Eh oui. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Le levain, c'est le symbole de la malice, du péché, du mal, etc. Car Christ, notre Pâque, celui qui a été crucifié à la croix, qui a livré sa vie en sacrifice, a été immolé. Crucifié, mais ressuscité. Parce qu'il est vivant. Amen. Jésus a été le précurseur d'une nouvelle période. Et le futur, eh bien, s'est élevé comme le soleil à son midi pour éclairer le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est lui qui nous éclaire. Amen. Il éclaire notre conscience. Cette conscience, vous savez, qui nous reprend, qui nous dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu n'aurais plus touché à ça. Il faut que tu arrêtes. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui agit dans notre conscience, qui nous montre les choses qui ne sont pas belles, qui nous feront du mal d'ailleurs, parce que le mal, les choses mauvaises nous font du mal. Eh oui. Alors, un conseil. Si vous suivez Jésus, et je le souhaite de tout cœur, ne regardez jamais en arrière. Ne regardez jamais en arrière. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, si quelqu'un veut me suivre, qu'il mette la main à la charrue, mais surtout qu'il ne regarde pas en arrière. Pardon. C'est au pupitre que je dis ça. Paul avait une sorte de slogan, l'apôtre Paul, je parlais, qui lui a servi, je dirais, tout au long de sa vie. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. « Je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, amen, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Oubliant ce qui est en arrière. La nostalgie, c'est demande justement de vivre avec ses souvenirs. Il y a quelque chose de mieux devant. Adrien Bessaguet disait, c'est un serviteur de Dieu qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, que j'ai bien connu, il disait, le meilleur, il est encore à venir. C'est-à-dire que le meilleur, il est encore devant nous. Amen. N'aimerais-tu pas vivre quelque chose de nouveau? Je pose la question. Réfléchis un petit peu. Est-ce que cette vie dans laquelle tu es engagé depuis ta naissance ou depuis ta conscience, est-ce qu'elle te satisfait pleinement? Et que tu es vraiment heureux, épanoui, en paix avec toi-même, en paix avec les autres? Tout est là. N'as-tu pas envie de quelque chose de nouveau? Quelque chose qui t'amène justement dans une autre direction, où là tu vas trouver le véritable bonheur. Parce que le bonheur, il existe. Amen. La perspective d'un chrétien est de toujours regarder en avant. Dieu n'a pas accompli des choses dans le passé qu'il ne peut faire aujourd'hui ou demain. Amen. Lui n'a pas changé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Lorsque Jésus est venu, des choses se sont produites. Amen. Les morts sont revenus à la vie, des gens furent guéris, et à nouveau il y avait un homme qui avait la stature d'un roi pour régner sur le trône de David. Dieu l'avait promis. Eh oui, Jésus n'a pas changé. L'évangile est toujours nouveau. On me parle de ce vieux livre, oui, ok, mais si tu savais comme il est riche, comme chaque jour il me parle et il me fortifie, comme il sait également me guider et me conduire dans la bonne direction. Comme il sait également me préserver des petits traquenards, des petits pièges. Comme il sait m'éviter beaucoup de souffrances, ce livre. Hein. Eh oui, les choses sur cette terre, les choses nouvelles, sur cette terre, elles vieillissent. Par exemple, les bébés deviennent des hommes vieux ou des femmes vieilles. Les nouveaux habits, ils s'usent. Eh oui. Les choses à la mode deviennent démodées, quoique, vous savez, c'est comme un cercle, ça revient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était, c'est ce qui sera. Eh oui, oui, oui. Alors nous savons toutes ces choses, bien sûr. Mais le Nouveau Testament parle de ce qui se renouvelle constamment, c'est-à-dire des choses nouvelles, les choses nouvelles de Dieu, elles restent nouvelles et elles seront à jamais nouvelles. Ce que Jésus touche devient vivant. Et reste vivant et frais. La vie qui jaillit dans la résurrection ne vieillit pas et ne tarit jamais. Amen. Je suis entré dans une nouvelle ère, celle de l'éternité. Depuis que mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je veille à ce qu'il reste inscrit dans le livre de vie, je suis rentré dans une autre dimension. C'est pas formidable? Mais c'est la vie avec Dieu, c'est la vie avec Jésus. L'évangile est ancien, mais reste à jamais nouveau. Vous comprenez? L'évangile n'est pas une vieille histoire, mais une bonne nouvelle. Amen. On a besoin d'entendre de bonnes nouvelles aujourd'hui. Eh oui. Il n'est pas le récit d'une histoire passée, mais de ce qui se passe en ce moment, parce que c'est actuel. L'évangile, c'est pour aujourd'hui. Mais également ce qui se passera dans le futur, et qui ne s'arrêtera pas d'arriver, bien sûr. La Bible est vieille, mais lorsque nous la lisons, ses pages sont pleines de fraîcheur. C'est comme un pain frais, mes amis. Amen. Alors, Jésus dit que quiconque est instruit par sa parole, qui va tirer des trésors, tout simplement, des choses nouvelles, des choses anciennes aussi, Même les trésors anciens deviennent nouveaux, toujours nouveaux parce que c'est sa parole, elle est renouvelée, elle est rafraîchie. C'est sa vérité, ce sont ses paroles. L'Évangile ne restera jamais nouveau, bien sûr, hein, ne vieillira pas. La croix de Christ génère toujours encore par la puissance dans notre société. C'est parce que Jésus est mort sur le bois de la croix qu'aujourd'hui on peut renaître, naître de nouveau. Amen. Au-delà de tout ce qui peut être connu, c'est bien supérieur, croyez pas? Eh oui. Elle contient le plus grand des secrets pour changer, elle le pire en meilleur, pour nous transformer en créatures nouvelles, faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Amen. Je sais à qui je dois ce que je vis aujourd'hui. Au Seigneur. Vous avez essayé de vous refaire? Excusez-moi. De triompher ne serait-ce que d'une passion. Triompher de votre nature. Vous êtes arrivé combien de temps? Où sont les bonnes résolutions du 1er janvier? Ou du 31, les 31 décembre? Si on est arrivé au 1er janvier, c'est déjà pas mal. Mais oui, mais on sait. On sait qu'on n'est pas capable de se changer, de se transformer. Lui, Dieu, il ne change jamais. Mais par contre, il change tout. Amen. Il demeure la même fontaine de vie, sa gloire. C'est comme une cascade sans fin de miracles, de prodiges. Parce que la nouvelle naissance est un miracle, mes amis. Et ça, il y a Nicodème, il ne le comprenait pas. Nicodème, il te faut naître de nouveau. Lui, l'enseignant, il était érudit, lui, il savait. Il te faut naître de nouveau. Mais Seigneur, tu comprends ce que tu dis là? Il faut que je rentre dans le sein de ma mère, c'est-à-dire dans le ventre de ma maman, que je renaisse. Mais ma maman, elle est peut-être sous terre déjà, elle est peut-être morte. Comment veux-tu que je fasse? Et c'est là que Jésus lui a dit, tu entends le vent, tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit. C'est un miracle. N'aimerais-tu pas vivre ce soir un miracle? Quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de bon. Paul a dit que la repentance, c'est une tristesse dont on ne se repent jamais. Parce qu'elle produit la vie en nous. Elle fait de nous des hommes et des femmes meilleurs. Amen. Alors il est temps pour, peut-être pour quelqu'un ce soir. Nous avons un ennemi. Excusez-moi de vous parler comme cela. Un ennemi, un voleur. Il est terrible. Seulement ce qui est formidable, c'est que Dieu l'a vaincu. Il l'a vaincu parce qu'il a donné son Fils, son unique. Le seul homme qui était sans péché, pardon, qui s'est chargé, lui, de toutes nos iniquités, de tous nos péchés, il l'a vaincu à la croix. Lui voudra toujours nous ramener en arrière. Surtout, ne change pas. Il nous montrera qu'à côté, il y a pire. Finalement, tu n'es pas si mauvais, toi. Regarde à côté. Eh oui. Alors que Dieu veut nous transformer. Alors que Dieu veut nous transformer, faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Il a créé les étoiles, le soleil, la lune, le climat. Est-ce que tout ça, c'est figé et monotone? On change de saison. Les couleurs des feuilles sont magnifiques. Amen. Il change, il éveille notre intérêt pour la beauté de toutes les saisons par lesquelles nous pouvons passer. Amen. Alors pourquoi avoir peur d'un changement? Je sais qu'on a peur de l'inconnu. Mais quand justement on nous parle d'un changement, d'une transformation, d'une vie nouvelle, qui sera bien meilleure. Voulez-vous en priver? Eh non. Eh non. Dieu a planifié de changer, de transformer toutes choses pour le meilleur. Alléluia. C'est-à-dire que tout va être mieux dans le futur. Chaque changement est un pas en avant. Écoutez bien le mot, vers la perfection. Amen. Eh oui, la Bible commence sur une femme. Dieu acheva son œuvre, Genèse, puis se termine par un commencement. Apocalypse 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ne voudrais-tu pas passer par un recommencement, mais vers des choses nouvelles, pas anciennes. Non pas te faire tourner en rond, mais te permettre d'aller plus loin, d'avancer avec Dieu. Amen. Notre vieille terre, nous le savons, elle est usée, elle est polluée. On parle de la couche d'ozone, on parle de manque d'eau, etc. La banquise siphon, etc. Vous voyez, il y a des choses qui sont là. Elle est polluée, elle est tachée par le sang des guerres, l'atmosphère est viciée, par le prince de la puissance de l'air, celui qui justement ne veut pas que les hommes entendent cette bonne nouvelle, de l'avenir avec Jésus. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'avenir est déjà écrit. Eh oui. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où régnera la justice, la vraie. Amen. Alors, je ne sais pas où tu en es face à l'injustice, face à la méchanceté des hommes, mais Dieu a quelque chose à te proposer ce soir. Il veut que tu puisses vivre une vie nouvelle. Recommencer, je dirais, sur un chemin nouveau. Il est dit qu'aucune bête féroce sur ce chemin ne peut se rencontrer. Nul ne peut s'égarer. Parce que Jésus est lui-même le chemin, la vérité et la vie. N'aimerais-tu pas expérimenter ce soir, tout simplement, cette présence en toi? Moi, maintenant, je réfléchissais en voiture. Ça fait 36 ans. 31 ans que je sers Dieu, que je prêche l'Évangile. Mais 36 ans que je me suis converti. En me convertissant, j'ai fait un reproche à Dieu. T'es pas malin, hein? Mais oui, j'ai fait un reproche. J'ai dit, pourquoi tu as attendu tout ce temps? Après, il m'a répondu, tu ne m'écoutais pas. Il y a un moment que je te parle. Il y a un moment que je t'invite à venir. Je ne voulais pas. Puis quand j'ai compris, j'ai vraiment pleuré sur mon péché. La dureté de mon cœur. Mais vous savez, c'est ça l'Évangile. Il nous transforme. Il nous rend plus forts. Parce que pleurer ne rend pas mauviette, mais fait de nous des gens forts. Moi, je pleure quand je vois la pauvreté de ce monde dans lequel nous vivons sur le plan spirituel. N'as-tu pas envie ce soir de venir vers Jésus? Tu veux dire, Seigneur, fais toute chose nouvelle en moi. Je ne veux plus vivre comme cela. Je veux que tu puisses me transformer, me changer, faire de moi une nouvelle créature. On ferme nos yeux, vous voulez bien? J'aimerais simplement vous demander. C'est personnel. Amen. C'est personnel. Ma femme était convertie 2 ans avant moi. Elle m'a parlé, je ne voulais plus entendre. Mais un jour, c'est Dieu qui m'a fait comprendre. Puisses-tu comprendre ce soir? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci parce que tu es ce Dieu vivant et vrai. Tu dis, la chose arrive. Tu mets tout en place pour que nous puissions, nous-mêmes, être changés, transformés et vivre une vie nouvelle. Seigneur, je n'étais pas meilleur. Mon collègue ici, Seigneur, n'était pas meilleur. Mais tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous as montré que le meilleur était de marcher avec toi. Alors Seigneur, ce soir, agis. Agis dans les cœurs. Agis dans l'esprit humain. Fais ton œuvre, Seigneur, une œuvre de salut. J'aimerais vous demander à vous qui êtes là ce soir, qui peut-être n'avez pas fait le pas encore, ne voulez-vous pas donner votre cœur à Jésus? Et dire, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Simplement, faites un geste. Moi, je l'ai fait un jour. Le pasteur qui prêchait ce jour-là dit, levez votre main, vous qui avez besoin de Jésus. Moi, j'avais besoin de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va lever sa main et qui va dire, moi, je veux? Oui, baissez votre main. Baissez votre main. Oui, Dieu vous voit aussi. Baissez votre main. Oui, Dieu vous a vu aussi devant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'aimerais prier. Tout simplement, demandant à Dieu de faire son œuvre en vous. Déjà, il a vu votre cœur. Amen. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que de pouvoir sentir ta présence ce soir, nous la sentons. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, et ces mains qui se sont levées, c'est tout simplement l'action de ton esprit. fais toute chose nouvelle dans ces vies. Transforme, Seigneur, l'esprit humain. Fais une œuvre de salut, Seigneur. Aide, Seigneur, ceux qui ont seul levé leurs mains ce soir et ceux qui disent, Seigneur, moi aussi je veux. Eh bien, fais, Seigneur, en sorte qu'ils puissent vaincre leur nature et marcher avec toi, aller plus loin avec toi. Fais-leur goûter, Seigneur, ces fruits magnifiques qui sont là devant eux. Seigneur, c'est toi qui donnes ce soir la vie. Alors glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, croyez que vous vivez quelque chose de nouveau ce soir. Croyez que, eh bien, vous n'avez plus à avoir les mêmes désirs, les mêmes aspirations, parce que Jésus est en train de vous transformer intérieurement. Sois béni maintenant, Jésus. Amen.